Avant de démarrer cet épisode, je voulais remercier notre premier sponsor qui permet de redonner vie à ce podcast, c'est Eymundo, une assurance en ligne de qualité que j'apprécie beaucoup parce que elle t'accompagne tout au long de ton voyage grâce à une application et un service d'assistance réactif. Ils sont disponibles par téléphone 24 heures sur 24 et surtout parce qu'avec cette assurance, il n'y a pas de petites lettres, ni de chichi, tout est simple, rapide et sans processus administratif interminable pour le remboursement. Et tu me connais, je déteste l'administratif, donc si tu pars bientôt en voyage, va faire un tour sur leur site Heymundo.fr, Heymundo.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour.
Regarde-moi ça!
J'ai l'impression de faire la dégustation.
Ouh! Ça, c'est de la vie!
Ah, c'est magique, ça!
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie. Numéro.
Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène en Suède. Et voilà, Scandinavie, on n'y va pas souvent. Et en plus, on y va dans un mode de voyage que j'aime beaucoup parce que finalement, c'est du slow travel, c'est du bénévolat, c'est tout ce qu'on aime, c'est auprès de la nature, c'est au fin fond du fion de la Suède puisque c'était clairement en plein milieu de la Suède que Emeline va nous emmener sur une durée quand même assez longue. Salut Emeline, comment ça va?
Salut Alex, ça va très bien toi?
Je suis ravi de te recevoir sur ce podcast. Depuis le temps que j'ai suivi ton aventure en Suède avec tous ces chiens, oui parce que je ne l'ai pas dit, tu es allé aussi prendre soin de chiens de traîneau, c'était ça ton job. Tu es resté combien de temps, juste pour la petite info?
Je suis resté 10 mois, j'étais parti début décembre 2020.
10 mois? Putain, mais moi j'ai suivi, je pense, putain ça passe vite le temps, 10 mois. Et le deal, c'est déjà en fait le truc, c'est... Avant de savoir comment, quoi, ça ressemble à quoi où t'étais? Tu vois, t'es en plein milieu de la Suède. Donc, si tu prends une carte du monde et une carte de la Suède, tu prends la Suède, c'est en plein milieu, c'est ça?
C'est ça. Ouais.
Et à quoi ça ressemble? Tu vois, c'est quoi la Suède? C'est des pins tout droit? C'est quoi?
Ouais, alors, moi, j'étais arrivée début décembre, donc ouais. En plein milieu de l'hiver. Et en fait, je suis montée directement dans le nord. Donc, je suis arrivée à Stockholm. Après, j'ai fait 10 heures de train vers le nord et 3h30 de bus vers l'ouest.
Ah ouais.
Je me suis retrouvée vraiment en plein milieu et c'était déjà en plein hiver, donc il y avait déjà de la neige partout et évidemment il faisait presque jamais jour, donc il faisait beaucoup nuit et moi j'avais pas l'habitude de ça, sachant que je connais pas du tout la neige en plus. Donc je me suis vite retrouvée dans le bain entourée de forêts de sapins et de neige et du coup ça fait tout de suite l'immersion, quoi.
En fait c'est vraiment l'image de la Laponie qu'on peut avoir, c'est des grandes forêts enneigées à perte de vue, c'est un peu ça. Parce que quand tu commences à faire 3 heures de bus sur le côté, juste pour être au milieu, c'est que vraiment, tu es au milieu de nulle part.
C'est ça.
Et comment, en fait, tu as trouvé cette... Parce que tu es parti là-bas en bénévolat, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais.
Comment tu as trouvé ça? Comment, en fait, pour trouver ce genre de mission, tu sais, je pense que quand tu es un peu jeune ou tu es un peu ado, ou alors que tu es dans ta chambre et que tu galères avec tes études ou avec une vie qui ne te plaît pas, tu te dis, putain, mais c'est trop ça que je dois faire. Je dois partir 10 mois en Laponie, je serai avec des chiens de traîneau, ce sera trop bien, je pourrai leur faire des câlins et je serai en pleine nature. Et en vrai, si je redis ça avec une voix normale, j'ai trop envie de passer 10 mois en Laponie avec des chiens de traîneau en plein milieu de la nature. Ça fait juste rêver. Comment on trouve ça, merde?
Alors, en fait, il y a un site qui s'appelle Workaway. C'est un
peu
de booking. Ça fait plusieurs années que je m'en sers déjà. Et ouais. En fait, il faut savoir que je suis partie après le reconfinement. Et c'est ça qui m'a décidé à partir en Suède. Sinon, je ne serais peut-être pas partie là-bas. Mais comme tous mes plans de base étaient tombés à l'eau plusieurs fois de suite, j'en avais marre. Et je me suis dit, bon, ça fait un moment... que j'ai envie de passer un hiver dans le nord, et la Suède, c'est un des rares pays ouverts. Du coup, j'étais sur Workaway, j'ai regardé en Suède tous les volontariats qu'il y avait avec des chiens de traîneau, et j'ai contacté une famille qui m'avait dit « Ok, on te prend, viens début décembre et tout. » Et donc, j'ai pris mon billet.
Attends, viens, on te prend. C'est quoi le procès, genre « Bonjour, je voudrais venir, enfin voilà quoi, m'occuper de
oui,
mes chiens.
Oui, » oui.
Et eux, ils te disent… Bah salut, viens. Non, c'est quoi le process?
En fait,
il passe un entretien, t'as des visios, ça prend combien de temps?
C'est une plateforme d'échange. Du coup, tu regardes les annonces, tu contactes directement la personne qui t'intéresse.
Ouais.
Et après, t'échanges par message et c'est elle qui te dit si c'est possible ou pas. Vous définissez les dates. Après, il faut bien lire la description parce qu'il y a beaucoup d'annonces. Il faut savoir ce que tu cherches.
Ouais.
Et moi, j'avais vraiment envie de m'occuper de chiens, quitte à aller dans le nord. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et sachant que je me suis déjà occupée d'animaux, je suis un peu dans le tourisme outdoor et tout ça.
Ouais.
Mais j'ai pioché dans ma liste de rêves, en fait, et il y avait celui-là, qui était faisable à ce moment-là, parce qu'il y a beaucoup
ça, j'aime beaucoup faisable. Ça. J'ai pioché dans ma liste de rêves. Genre, alors, bon, dans tous ces rêves-là, OK, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Tu vois, je suis en traîneau pendant 6 mois, trop cool, en hiver.
Bah, après, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, du coup, j'avais pas de job puisque la saison d'hiver avait été annulée. Ouais. J'avais pas d'appart, j'avais aucune attache, en fait.
Bien sûr.
Donc, j'avais juste à faire mon sac et à partir. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Entre la décision de partir et le moment où je suis partie, c'est passé que 2 semaines. Donc, ça s'est organisé très, très vite.
Ben en plus, on est d'accord que voilà, la Suède, c'est l'Union européenne, donc tu n'as pas besoin de visa déjà. Et finalement, tu as juste à préparer ton sac, prendre des vêtements un peu chauds, et c'est parti. C'est un peu ça.
Je ne savais pas du tout. Comme je n'ai jamais vécu dans la neige ou dans le froid, en fait, j'ai emmené les trucs que j'avais sous le coude.
Une écharpe.
J'avais aucune idée de ce qui allait m'attendre, en fait. Et on sait que c'est moins 30, moins 40 degrés.
Ah, c'est moins 30, moins 40 ?
C'est le plus froid que j'ai eu, moi, c'était moins 33 degrés.
Ah ouais,
ouais.
Ah d'accord.
Sachant que je travaillais dehors, quoi. J'étais pas dans un bureau.
Ok. On y reviendra là-dessus parce que ça pique un petit peu. Du coup, toi, t'es parti avec une écharpe et des gants. C'est ça ?
Voilà, avec mes pauvres trucs quechua, entre guillemets. Mais après, bon, j'ai racheté des trucs sur place, évidemment.
Ok, trop cool. Et c'est bête, mais justement, tu te rappelles du budget un peu juste pour te aller. Parce qu'une fois que tu étais là-bas, tu étais nourri, logé, blanchi, entre guillemets. Enfin, tu pouvais faire ta lessive, on est d'accord.
En fait, Workaway, du coup, c'est du volontariat. Donc, tu es logé, nourri, comme tu dis. Ouais. Et donc, on n'est pas payé. Mais en fait, ce que je n'ai pas raconté, c'est que c'est toute une histoire. Parce que du coup, je devais partir dans une famille, mais 3 jours avant le départ, ils m'ont dit finalement, on ne peut pas te prendre. Parce qu'il y avait une explosion de Covid à ce moment-là à Stockholm, ils avaient trop peur. Vu que je passais par Stockholm, ils m'ont dit, finalement, non. Et moi, je me suis dit, OK, je pars dans 3 jours, j'avais plus aucun plan sur place, et je me suis dit, je fais quoi? J'y vais quand même ou pas? Et je me suis dit, bon, je pars dans tous les cas, je suis sûre que je vais trouver un truc. Et dans la foulée, elle m'a donné le nom d'un groupe Facebook. Donc ça, pour les gens qui veulent faire ça, c'est hyper intéressant. Ceux qui veulent, je donnerai le nom.
Comment il s'appelle?
C'est un groupe spécial pour les mushers et les handlers, donc les gens qui s'occupent des chiens avec les mushers. Et c'est pour tous les pays du Nord et le Canada.
Ah, donc, trop bien!
Canada. Et en fait, il y a souvent des annonces de gens, soit qui cherchent des gens, des handlers pour venir s'occuper des chiens.
Ouais.
Soit tu peux mettre une annonce. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, j'arrive dans quelques jours en Suède, je voudrais m'occuper de chiens, machin. Qui est-ce qui veut me prendre?
Alors moi, je suis là, j'ai des mains, je suis handler. Venez me prendre, s'il vous plaît.
Voilà, donc au dernier moment, j'ai trouvé un nouveau couple qui m'a dit nous, on a besoin de quelqu'un.
Ok.
Et je l'ai trouvé au dernier moment. Donc, c'est un couple d'anglais en plus, c'est pas des Suédois. Et bon, après, il s'est passé plein de trucs. Donc, tu me diras ce que tu veux.
Non, mais vas-y, on est là, on est là pour l'aventure. Donc, tu arrives à Stockholm. Déjà, ça coûte combien effectivement de te rendre? Parce qu'on peut avoir des a priori sur la Scandinavie, etc. Sachant que, ok, tu savais que sur place, tu n'allais pas dépenser d'argent, mais pour y aller, parce qu'il y en a qui ont peut-être l'avantage de voyager quand tu es fauché, tu peux le faire avec justement du bénévolat, donc du Workaway. Il y a un autre site qui s'appelle Helpix, mais il faut y aller sur place. C'était combien pour
fin fond de la Suède?
Le billet d'avion, je ne me rappelle plus trop. Ça devait être 100 euros le billet aller, puisque je prends toujours que des billets aller. Donc, ouais. Je ne sais pas pour le retour.
Ouais.
Et après, c'est le prix du train pour aller jusqu'à Paris. Et après, les transports sur place pour se déplacer, c'est ça qui coûte le plus cher.
Donc, c'est quoi, c'est 300 euros pour y aller? Quelque chose comme ça?
Non, je dirais... Ouais. Ça dépend d'où tu pars en France, en fait. Et où tu vas après, parce que si tu n'es pas loin de Stockholm, ça coûte moins cher. Mais peut-être, 250... disons 300 pour moi, parce que je suis partie de Bretagne et je suis allée dans le nord.
Ok.
Et après, par exemple, à Stockholm, j'étais en couchsurfing. Ça, c'est pareil, je fais que du couchsurfing. Donc, je n'ai pas payé d'hôtel. Je suis restée 2-3 jours à Stockholm au début.
Génial.
Et du coup, j'étais directement logée chez un local. Et ça fait des grosses économies aussi.
Ah tu m'étonnes, surtout là, en Scandinavie, surtout ça qui... C'est les restos et l'hébergement qui font assez mal au budget. Ok, tu te pointes à Stockholm, dans ce fameux nid de Covid. Mais tu as envoyé des messages. Il y a des gens qui te disent... Vas-y, viens, on est anglais, on a des chiens, et toi, si t'as envie de nous aider, tu peux venir. Mais, j'ai l'impression qu'il y a un mais.
Ouais.
C'est vrai.
Du coup, je suis allée jusqu'à chez eux, donc j'ai fait les 10 heures de train, les 3h30 de bus. Plus, pour aller chez eux, il y avait une demi-heure de voiture pour aller vraiment encore au fin fond de la forêt. Ah oui, et d'ailleurs, j'avais jamais conduit sur la neige. Je me suis retrouvée. Ils sont venus à deux voitures et ils m'ont laissé une voiture pour que je les suive. Pour pas
pourquoi
être dans la même
ça
voiture pour, à cause du Covid. C'était un peu.
Ah oui, ils étaient OK, freak. Ah ouais, les gars, ils.
Voilà.
D'accord, OK.
Mais du coup, je me suis retrouvée à conduire sur de la neige, en plein milieu de la forêt. Je savais pas. J'avais trop peur que la voiture elle dérape et qu'elle glisse. Je savais pas conduire du tout sur une route comme ça. En plus, il faisait à moitié nuit, mais moi, bon, je les ai suivis. On s'est enfoncé dans la forêt pendant 30 minutes. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est vraiment la pleine nature à 100%. Et du coup, la première semaine, je l'ai passée dans une cabane. Bon, il y avait l'électricité quand même.
J'ai une cabane. Bah, toi, tu vois là, la petite cabane en bois au fond du jardin, bah, c'est chez toi. Nous, on va aller dans notre super maison voilà, avec des grandes baies vitrées chauffées et tout. Et toi, tu es dans la cabane. Non, c'était pas ça,
c'est
ça.
Non, parce qu'il y avait une petite période de quarantaine, encore une fois.
Ah ouais.
Il faut inclure le contexte aussi qui joue beaucoup.
Bien sûr.
Et après, c'était une cabane tout confort. Il y avait l'électricité eau chaude. Mais je suis restée qu'une semaine parce que après du coup, ils ont accepté que j'aille dans la maison. Donc, j'avais ma chambre dans la maison. Et en fait, je ne suis restée qu'un mois chez eux.
Pourquoi ?
Parce que j'ai très, très vite compris qu'ils étaient un peu...
échangistes ?
Non, mais ils étaient pas... Je ne vais pas dire qu'ils étaient toxiques, mais je ne me sentais pas du tout bien avec eux.
Ah.
Je faisais des cauchemars d'eux toutes les nuits.
Ah, mais ça, c'est attends, ça, c'est intéressant, ça, parce que, tu sais, encore une fois, tu parles d'une expérience comme ça, on dit tous, « Waouh, c'est génial, t'es au fin fond de la Laponie avec des chiens. » Mais en vrai... Ça peut se transformer en cauchemar.
Oui.
Parce que si t'es enfermé à l'autre, enfin, t'es à 3 heures de bus d'une station de train, et en plus, faut te claquer une demi-heure de bagnole. Et si les gens, ils sont un peu tarés. Et pourquoi ils étaient toxiques? Qu'est-ce qui faisait que la relation était bizarre? Tu te sentais pas bien?
Alors, déjà, lui, il était écossais. Donc, déjà, je ne comprenais rien de ce qu'il me disait. Pourtant, je parle très, très bien anglais et je comprenais absolument rien de ce qu'il disait. Et il était toujours à se plaindre, toujours très négatif. Ce que je faisais, c'était jamais assez bien. Il fallait faire toujours plus. Faut savoir que je faisais 2 siestes par jour les premiers jours parce que j'en pouvais plus. Il faisait nuit tout le temps. C'était, en fait, tu pelles de la neige, c'est hyper physique. Et je connaissais rien aux chiens. Et ils étaient pas du tout, comment dire, sympathiques. En fait, c'est des ondes. C'est dur à expliquer, mais c'est une histoire de vibes, si tu veux.
En gros, ils étaient là pour venir prêter main forte, tu vois, ambiance cool, parce que t'es pas non plus payé, enfin, t'es juste nourri, logé.
Oui, je devais payer mes courses en plus.
What?
Ouais, ouais. Et j'avais jamais jour de repos. Je travaillais tous les jours et ils m'apprenaient pas à faire du traîneau. En fait, je m'occupais des chiens, mais ils me faisaient rien faire à côté.
Donc, t'étais un esclave qui payait en plus sa nourriture.
C'est ça. Et le pire, c'est que j'ai passé Noël et Nouvel An chez eux, du coup.
Oh, sympa.
Mais du coup, je me suis dit, j'ai appris à gérer ça quand même, et je me suis dit, je ne vais pas rester ici parce que je ne suis pas bien, donc je vais partir.
Comment on fait dans ces cas-là? C'est que du coup, tu as recherché de nouveau sur LPX, tu as renvoyé des messages.
C'est ça. Donc ça, juste le message important, c'est de ne pas rester si tu n'es pas bien. Quand même si tu es en fin fond de nulle part, tu trouves une solution parce que je n'aurais pas pu rester tout l'hiver chez eux, ce n'est pas possible. Du coup, je suis retournée sur le groupe Facebook et j'ai vu une annonce. D'un chenil qui correspondait aux critères que je cherchais, donc pas trop de chiens, il y en avait une quarantaine. Et il y avait 2 guides qui étaient 2 nanas assez jeunes aussi. Et à chercher quelqu'un qui avait exactement mon profil.
C'est-à-dire,
j'ai eu un entretien au
téléphone. C'est quoi ton profil? Quel est ton profil pour que les gens peut-être se reconnaissent?
Ouais, j'avais un tout petit peu d'expérience avec les chiens, mais pas assez pour qu'ils puissent me payer en tant que guide.
Okay.
Je parlais anglais. Et eux, du coup, ils me donnaient 2 jours de repos et j'étais payée 400 euros par mois pour la nourriture.
C'est-à-dire qu'après, tu te gérais avec ça, en fait. Plutôt que faire à manger, truc, machin, c'est on te file 400 par mois et tu te gères avec ta nourriture, etc. Ah, ok, d'accord.
C'est ça. Et du coup, j'ai eu un entretien au téléphone en anglais, du coup, avec la guide. Et elle m'a dit, pour nous, c'est bon. Je dis, pour moi aussi, ok, j'arrive. Donc, au final, je suis restée qu'un mois chez les Anglais parce que j'en pouvais plus. Ouais. Et je me suis retrouvée dans un nouveau chenil début janvier. Et là, c'était trop bien. Du coup, j'ai fait toute la saison d'hiver. Je suis restée 3 mois.
Ah ouais. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est trop bien? Qu'est-ce qui fait qu'on passe de... C'est un truc toxique à un truc genre, je reste 3 mois, girl power, je suis qu'avec des meufs trop cool et c'est chambé. Et c'est quoi les ingrédients?
Ah, c'est vrai que le truc auquel on pense pas du tout quand on s'occupe d'animaux, c'est la question de l'humain. J'avais complètement sous-estimer ça, mais en fait, c'est ça qui est le plus important, c'est que si tu t'entends pas avec l'équipe, bah, ça va pas. Alors qu'une équipe qui fonctionne, ça change tout. Et du coup, je me suis retrouvée avec deux guides. Il y avait une Estonienne de 31 ans et une Suédoise de 25 ans.
Ouais.
Et en fait, elles étaient hyper cool. On était comme trois sœurs, en fait. On s'entendait trop bien sur tout. Et ça coulait de source. Et là, je me suis sentie à ma place et je me suis dit, OK, donc là ça fonctionne. Et on a fait tourner le chenil. Il y avait une quarantaine de chiens. On avait des tours 4 jours par semaine.
Alors, attends. Le chenil. Alors moi, quand tu me dis un chenil, j'imagine juste des cages avec des chiens dedans. C'est pas un truc super glam, en fait. Qu'est-ce que c'était, en fait? C'est quoi le principe des lieux où tu allais? C'est que c'était en fait des lieux touristiques où les gens venaient faire un petit tour en chien de traîneau. Est-ce que c'était des élevages? Est-ce que c'était des refuges? C'était quoi, en fait, le lieu?
Les chenils, donc celui où j'ai bossé cet hiver, c'est un chenil touristique. Donc, en fait, okay. Les gens viennent, ils payent pour faire des tours.
Ouais.
Là, en l'occurrence, c'était des petits tours. Donc, c'était 6 km et 12 km. Et nous, en fait, un chenil, c'est ça. C'est, les chiens sont dans des cages. En fait, ils sont par 2, 3 ou 4, ça dépend des chenils. Ouais. Mais nous, on s'en occupe tous les jours. Donc, par exemple, les jours où ils ne bossent pas, on les fait sortir. Ils ont un grand parc pour qu'ils puissent se défouler, être ensemble, jouer et utiliser l'énergie parce que c'est des boules d'énergie. Et sinon, bah, là où je bossais, donc, c'était des tours. Donc moi, j'aidais à préparer les tours avec les touristes, en fait. Mais non, mon rôle, c'était de m'occuper des chiens. J'étais un peu les petites mains derrière les guides. Pour
qu'est-ce qu'on fait quand on s'occupe de chiens de traîneau? Enfin, qu'est-ce que tu fais? Tu fais « Bonjour, viens, je te mets ton harnais, je te mets dans les crottes du chenil » et je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait?
On fait beaucoup de choses. Déjà, il faut savoir que quand on s'occupe d'animaux, c'est 7 jours sur 7. Donc, c'est bien d'être plusieurs parce que du coup, on peut avoir des jours de repos.
Ouais.
Mais sinon, du coup, on va préparer la nourriture, souvent la veille au soir.
Les croquettes
et, alors, c'est croquettes et viande, surtout l'hiver, parce que l'été, c'est que croquettes normalement.
Okay.
On les nourrit matin et soir. Donc, par exemple, le matin, si on a un tour à 9h, il faut les nourrir à 7h du matin. Sauf que quand il fait moins 30 degrés et qu'il fait nuit... t'as pas trop envie de sortir du lit, pour pas le choix. Surtout quand t'es pas dit matin. Mais t'as pas le choix. Donc tu vas dehors en pleine nuit et tu traînes comment ça s'appelle, une luge avec les seaux remplis à ras-bord,
énorme.
Flotte de croquettes et de viande qu'on a bien mélangé avant. Donc c'est hyper lourd parce qu'il faut le traîner dans la neige, c'est à force des bras. Et après on fait la tournée des cages, donc on remplit toutes les gamelles. Ça prend un certain temps quand même. Et puis après, on nettoie toutes les crottes. Hein. C'est le côté pas très glamour, mais il faut le faire.
Ok.
Est-ce que
ces chiens-là, vu que c'est des huskies et tout, est-ce qu'ils peuvent être agressifs ou pas du tout? Ou ils sont juste joueurs et ils mettent une petite chicane, mais c'est juste pour la déconne?
Avec les humains, ils sont adorables. Ils sont très, très, très mignons. Enfin, s'ils sont bien éduqués, hein. S'ils sont bien dans leur tête, évidemment. Par contre, entre eux, alors là, je fais des anecdotes, j'en ai plein, parce que les huskies, ça, des fois, ça se fight, ça se bat.
Ouais.
Et une bagarre de husky, c'est un des trucs les plus violents que j'ai pu voir. C'est à nous de gérer ça, en fait. Donc, quand les
c'est super battent, territorial, en fait. C'est comme une meute, il y a un dominant, il y a un dominé, c'est ça?
Ça peut, ouais, il y a ça. En fait, quand tu les vois en meute, ils ont tous leur place. Mais des fois, les bagarres peuvent éclater pour une croquette qui traîne par terre ou un truc que t'as même pas vu. Et d'un coup, en fait, ça peut passer du calme plat à une bagarre explosive. Ils s'entretuent, en fait. Donc, si t'interviens pas, ça peut être hyper grave. Donc, faut intervenir vite. Bien, faut garder son sang-froid. Et ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal parce que la première bagarre, je tremblais de partout, je pleurais. J'avais du sang sur les mains. C'était horrible.
Ah ouais?
Ah ouais.
Attends, quand tu dis faut s'interposer, enfin, depuis tout à l'heure, je t'entends dire. Alors moi, je mets des pelletés dans la neige, je tire des grosses luges, je sépare des chiens de combat qui se battent. Alors pour ceux qui ne voient pas Emeline comme je la vois là, c'est pas un grand gabarit. On peut pas dire ça. Je me dis avec tes petits bras et tout, que c'était quoi la procédure? Un coup de sifflet. Allez, on se sépare chacun de son côté. Ou est-ce que tu mets les mains là-dedans en essayant que ta main va pas se faire broyer?
Alors, la règle à savoir, c'est qu'il ne faut jamais mettre ses mains pour intervenir. Par contre,
ok, c'est coup de latte.
En fait, ça peut paraître violent, mais tu leur balances. Si tu as une gamelle dans les mains, tu vas leur jeter dessus. Mais ils ne calculent même pas, en fait. C'est que ce qu'il faut se représenter, c'est que C'est des bêtes qui sont hyper puissantes et musclées. Et quand elles ont un objectif en tête, voilà, ils ne pensent qu'à ça. Donc, en fait, il faut arriver à les choper par le collier et les séparer. Ouais. C'est hyper dur parce que, enfin, comme je dis, je fais 1m62 pour 50 kilos. Donc, si tu veux, les huskies peuvent faire jusqu'à 30 kilos de muscles.
Ouais, donc autant dire qu'ils ont trois fois ta force, quoi.
Voilà. Donc, en fait, faut les séparer avec les pieds et les choper par le collier et après les mettre dans deux cages différentes. Après, ils se calment assez vite, mais en fait, ils peuvent se blesser hyper grave en très peu de temps. Et donc tu peux pas être là à dire oh mon Dieu, c'est horrible, qu'est-ce que je fais. Il faut que tu cours le plus vite possible et que tu interviennes. Donc c'est pas toujours
facile. Il fait moins 30 avec 1 mètre de neige. Eh, c'est sympa les réveils en Suède, dis donc. On est bien dans le bénévolat. Et là, tu dis avec tes croquettes à tirer, tu as du sang sur toi, tu dis il est 7h du mat, tu dis waouh, c'est quoi ce bénévolat. Et après tu te dis, quand c'est un peu la fin de la journée, c'était super aujourd'hui, j'étais avec les chiens, j'étais vraiment en symbiose avec la nature. Je pense que tu dois vivre un ascenseur émotionnel assez, assez incroyable. Ok, ça c'est le matin. Ok, bon, c'est Street Fight.
C'est pas tout le temps.
Street...
Hein.
D'accord, c'est un jour sur deux. Street Fight, croquette style. Après, qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, il y a des tours comme ça? Il y a des gens qui viennent?
Pendant la saison d'hiver, ça dépend des chenilles aussi. Nous, c'était que 4 jours par semaine aussi, parce qu'en période de Covid, il y avait beaucoup moins de touristes. Mmh. Du coup, on a pu réduire les jours de tour. Sinon, ils faisaient tous les jours en saison normale. Et du coup, on avait un tour le matin, un tour l'après-midi. Donc, en gros, si tu veux, le matin, les touristes arrivent. Tu as une guide qui les prend en charge. Et moi, pendant ce temps-là, je mets les harnais des chiens. Je vais préparer les traîneaux. Et après, on attelle les chiens au traîneau. Et donc, les touristes arrivent, on leur explique ce qu'il faut faire avant, parce que c'est eux qui conduisent. Et moi, je m'assure que les départs se passent bien. Donc, je libère les chiens, je les accompagne sur les premiers mètres. Je vérifie qu'ils savent bien où sont les freins. Et après, on détache les équipes comme ça. Et après, souvent, moi, je venais en tour, en support des guides. Donc, soit je suivais derrière en motoneige, soit j'étais sur le traîneau de la guide... En cas de problème. Donc,
ok, la classe, ça va sur la motoneige.
Oh ouais, ça c'est trop stylé. Mais c'est pareil, il faut savoir intervenir assez vite. Par exemple, si les chiens, ils s'en mêlent dans les cordes ou les trucs comme ça. Et puis les touristes, ils ne sont pas toujours très doués. Donc, il faut toujours bien voir ce qu'ils font. Ouais.
Alors, ils ne sont pas très doués, c'est juste c'est la première fois. Pourquoi
non,
je dis
je
ça
sais.
Parce que j'ai été ce touriste-là, Emeline. J'étais au Québec en hiver et le guide m'a dit, en plus, c'était des Français. Ils m'ont dit, bon, voilà. Juste, s'il arrive un truc ou quoi, lâche pas le traîneau, mec. Lâche pas le traîneau parce que ça va, j'ai pas lâché le traîneau. En plus, le guide était au niveau là devant moi en passager, tu vois. Ouais. Il me fait non, mais t'inquiète, j'en ai déjà vu plus d'un lâcher le traîneau. Il y avait leur femme dans le traîneau, tu vois. J'ai fait, oh, les bâtards et tout. Et ben, je peux te dire qu'à un moment, il y a un virage. Parce qu'en fait, la technique, c'est tu mets un coup de frein dans le curve, dans le virage, dans la courbe du virage, pour redresser ton créneau, en fait, que ça fasse comme un piquet, et boum, ça redresse le traîneau, et c'est comme ça que tu tournes. Dis-moi si je me trompe, si j'ai mes souvenirs sont bons. Et en fait, c'est cool. Mais au début, t'as pas le bon timing, le truc, ou, bah, putain, je suis parti tout droit, j'ai lâché le traîneau. J'ai lâché le traîneau, je l'ai lâché, ce traîneau, et le guide était dedans. Je l'ai lâché. Ben, il était, bon, après, c'est un guide, hein. Il avait un peu de neige sur la gueule. Bon, voilà. Fallait remettre un peu le traîneau sur. Mais, en fait, ça, c'est pas ça, c'est que t'es pas si accroché que ça, en vrai. Il suffit que tu lâches une petite main, ça glisse un peu, tu perds l'équilibre, tes pieds vont dans la neige. Putain, le traîneau, s'il part à une main, enfin, t'as 6 chiens qui tirent, Non, il part, le traîneau.
Alors, je sais, c'est hyper dur. C'est pour ça qu'on leur explique bien au début comment il faut faire. Après, quand je dis qu'ils ne sont pas doués, c'est que tu en as en général qui se débrouillent quand même. Voilà, tu vois qu'ils débutent, mais c'est normal, c'est ça le jeu. Mais tu en as qui sont vraiment limite dangereux, en fait, pour les chiens et pour eux-mêmes. Ils ne respectent pas les règles de sécurité. Et c'est juste si la santé et la vie des chiens sont en jeu, nous, on est là justement pour leur rappeler les règles. Donc, des fois, on fait des arrêts et puis on leur dit, bah non.
Mais c'est quoi, alors, au-delà des touristes qui t'ont fait flipper, au-delà des bagarres de chiens, c'est quoi les beaux moments que tu as vécu? C'est quoi les beaux moments que tu gardes, notamment de ces 3 mois-là? Tu sais, c'est le moment où tu dis, je me souviens de ce moment où, je me souviens cette fois où il nous est arrivé ça. C'est quoi les jolis moments que tu gardes?
Oui, parce que je parle que des trucs un peu horribles, mais c'est quand même.
Non, mais c'est fait partie du pratico-pratique.
Oui. Après, nous, les meilleurs moments, c'est quand on faisait des sorties toutes les trois, donc avec mes deux collègues. Quand on partait juste nous avec les chiens Notamment, une fois, on est parti faire un camping dans la neige. En fait, il y a une de mes collègues qui a un grand tipi. Et du coup, on est parti en traîneau un soir et on a monté le tipi près d'un lac gelé.
Genre un tipi d'Indien et tout ? Tu vous partez avec ça dans le traîneau et tout, avec les grands morceaux de bois et tout, pour pouvoir monter le tipi ?
Ouais, alors je me demande si elle n'avait pas amené avant un motoneige. Enfin, en tout cas, on avait nos traîneaux chargés à bloc.
Ouais.
Je ne sais plus si elle avait amené avant déjà les structures. Mais on a monté ça. Donc, on a couché les chiens à côté.
Ouais.
Et la nuit, du coup, on a fait un feu et il y avait les aurores boréales au-dessus de nous. Et du coup, c'était trop dingue parce qu'on avait donc, le ciel étoilé, les aurores boréales, le feu, le tipi et tous les huskies à côté de nous. Et on n'était que toutes les trois dans la neige. Et c'était juste dingue. Et du coup, on se racontait des histoires, des légendes, tout ça. Ça, c'était vraiment dingue.
Ah, c'est des moments comme ça, tu donnes... Ouais, ok. Ok, ça vaut le coup de nettoyer les crottes quand même un petit peu de temps en temps, enfin pas de temps en temps, tous les jours. Et si je comprends bien, t'es resté 3 mois. Donc là, si je fais le calcul, on est à 4 mois.
Ouais.
Et ils sont où les 6 autres mois ?
Et bah, la saison d'hiver se terminant, ils n'avaient plus besoin de moi parce que j'étais en saisonnière.
Okay.
Du coup, j'ai dû trouver un autre endroit parce que je ne voulais pas rentrer en France. Je me suis dit non, je veux rester encore en Suède. Du coup, je suis retournée sur le groupe Facebook. Et
Ah, c'est Emeline. C'est genre, c'est... il n'y a pas de problème, on la connaît.
J'ai remis une annonce et j'ai un des gars qui a répondu. Je me suis renseignée un peu, évidemment, sur le chenil. Et il avait besoin de quelqu'un pour 2 mois, donc pour avril-mai.
Ouais.
Et du coup, bah, j'ai dit ok, bah, j'arrive, parce que c'était vers les montagnes. En plus, c'était un endroit que je voulais visiter.
Okay.
Et donc, comment j'ai fait ? Bah, j'ai repris le bus. Enfin, j'ai repris les transports.
J'ai repris la voiture, le bus, le train, le stop, le couchsurfing. Et au bout de 17 heures, je suis arrivée. Exactement.
Oui, sur place, je n'avais pas de voiture. Et donc, je suis arrivée chez lui début avril. Et alors, lui, c'était trop bien. Parce que du coup, c'était la fin de la saison d'hiver. Donc, il y avait encore un peu de neige. Donc, j'ai pu faire quelques sorties. Et là, c'est la première fois que moi, je conduis. Des touristes. Et je me suis retrouvée avec un traîneau qui était monstrueusement grand. J'avais jamais vu ça. Il faisait le double de la taille de ceux que je connaissais. Donc, si tu veux, je me sentais toute petite parce que j'avais le truc où j'accrochais les mains qui était à la limite sous mon menton. Tu sais. J'avais l'impression d'être une petite fille sur le traîneau du Père Noël.
C'est ça. En fait, c'était la taille viking. Et toi, c'était la taille petite fée de Bretagne.
C'est ça. Bon. Donc, mais j'ai quand même réussi à conduire les touristes. Donc, c'était une bonne expérience. Et on a eu un truc assez dingue. On a eu une journée de tournage avec la nana la plus connue de Suède qui était venue faire un shooting photo et vidéo avec les huskies.
Ok.
Alors moi, évidemment, je la connaissais pas du tout, mais c'était la grande star. C'était une influenceuse hyper connue. Et du coup, moi, j'ai conduit la motoneige du photographe et du caméraman à côté du traîneau pour qu'ils fassent leur shoot et tout. Et on a eu toute une journée de tournage comme ça. Il y avait, je sais pas, il y avait au moins 20 personnes de l'équipe.
Wow. Ah ouais.
Et c'était vraiment drôle à regarder parce que tu avais les maquilleurs, les machins. Enfin, c'était assez drôle.
Mais là-bas, tu faisais quoi du coup ? Parce qu'après, quand la saison d'été elle est arrivée, c'est qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu t'occupes des chiens ? Juste, tu les sors ? Qu'est-ce qui se passe ?
Ouais. Alors là, c'était encore le printemps. Et d'ailleurs, la dernière sortie qu'on a fait en neige, avant que la neige fonde vraiment, on a fait un entraînement de 40 bornes, donc juste le boss et moi. Et cette sortie m'a beaucoup marquée, parce que c'est la première fois que je faisais vraiment du traîneau, en mode hors-piste. On a fait quand même 40 km, j'avais jamais fait une distance comme ça. Et c'est la première et unique fois que je suis tombée de traîneau.
Ah!
Et là, c'est pour ça que ça me fait rire, parce que en fait, je me suis fait éjecter à 3 mètres du traîneau, donc forcément, j'ai lâché.
Dans un virage, tu t'es éjecté comment, en fait ? C'est la vitesse,
Même pas. En fait, ouais, c'était une légère descente, sauf que j'avais 6 chiens, et même en étant sur les freins, moi, j'ai du mal à les arrêter, parce que je suis assez légère. Mais c'est qu'en fait, il y avait des rafales de vent sur le côté, et je m'entraînais à ce moment-là à dire « J » et « Ha », c'est-à-dire droite et gauche. Et à un moment, donc, j'étais là en disant « gauche, gauche », et on s'est pris une rafale de vent en même temps sur le traîneau. Du coup, mon traîneau s'est renversé et j'ai volé à 3 mètres du traîneau. Et les chiens ont continué sans moi. Parce qu'évidemment, les chiens ne s'arrêtent pas.
Même si le traîneau, il est en mode sur le côté, en train de ramasser la neige, il le pousse, il le tire quand même. Ah ouais.
Rien à faire. Il ne s'arrête pas, en fait. Du coup, j'ai eu de la chance que mon collègue était devant moi avec ses chiens. Mais il m'entendait pas parce qu'il avait sa capuche, son bonnet, j'étais derrière, il y avait du vent et j'arrêtais pas de gueuler en me disant stop, stop. Et je courais dans la neige, c'était horrible, j'ai cru qu'il allait pas me voir en fait. Et au bout de 5 minutes, il a réussi à intercepter mes chiens quand même. Et donc j'arrivais en courant comme des ratés.
Comment ça t'intercepte? Attends. Genre, attends, c'est un film d'action. Genre, il est sur son traîneau, oh, ça va à donf. Là, il voit le traîneau de côté qui arrive et il arrive à choper le premier chien, un truc comme ça, sans tomber, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Il,
ah,
a,
ouais.
Il a chopé un peu mes chiens de tête par la ligne du traîneau et en fait, ça les a...
Ça les a calmés direct. Ah, wow.
Là, ils se sont, à force, si tu veux, ils se sont enroulés dans la ligne, donc ils ont pas eu le choix de s'arrêter. Et moi, je courais derrière dans la neige en essayant de la rattraper. J'étais à bout de souffle, j'en pouvais plus. Je mourais de chaud dans mes fringues parce que tu t'habilles vachement chaud pour faire du traîneau. Et là, je transpirais tout ce que je pouvais. Et donc, attends, parce que j'arrive au traîneau. Donc, mon traîneau s'était pété en deux parties.
Ah, merde.
J'avais l'ossature en bois d'un côté et la partie intérieure en tissu de l'autre où j'avais toutes mes affaires. Et donc, j'arrive, je redresse le traîneau. J'essaie d'attraper le sac pour le remettre dedans. Mais mon collègue, au lieu de tenir mes chiens et d'attendre que je me sois remise, en fait, il s'est barré, il est reparti. Il m'a même pas demandé.
Mais déjà, je t'ai sauvé ton traîneau. Maintenant, tu te démerdes.
Donc, j'étais debout sur les freins à essayer d'attraper l'intérieur du traîneau pour le remettre dedans. Enfin, bref, c'était un bordel total. Sauf que mes chiens, du coup, bah, ils commençaient à repartir parce qu'ils ont vu l'autre qui repartait. Du coup, j'étais en galère totale. Donc, j'ai fait un peu l'équilibriste, je sais pas si ça se dit, mais. Pour remettre le traîneau comme il fallait en étant sur les freins pendant que mes chiens avançaient quand même. Enfin bref, gros bordel. Mais tout est reparti très bien. Tout s'est très bien fini.
Magique.
Enfin voilà, c'est la seule fois que je tombais de traîneau.
Et une fois du coup que t'es reparti sur le traîneau, que t'es derrière le gars qui apparemment avait vraiment envie d'arriver, on sait pas où. Vous avez fait quoi en fait? Vous étiez parti genre pour 40 kills, pour le kiff, ou vous avez pique-niqué, vous posez? Enfin, c'est quoi là? C'est quoi l'enjeu?
Ouais, en fait, c'était un entraînement pour les chiens et puis pour le plaisir aussi de sortir juste entre nous. Et en fait, on a fait une pause. Et ce qu'ils ont en Suède souvent, c'est qu'ils ont des petits abris en plein milieu de nulle part où tu peux faire un feu. Tu as des trucs pour faire la cuisine, genre une poêle, une casserole qui est à disposition. Du coup, on s'est posé là, on a mangé un truc, on a fait un feu. Et lui, c'est aussi pour entraîner les chiens à faire des pauses en étant calme. Ça, il faut leur apprendre, sinon ils sont tout le temps excités. Donc on a fait une pause là, il y a un de ses potes qui nous a rejoint en traîneau d'ailleurs, et après on est reparti à trois traîneaux.
Excuse-moi,
et on
entraînait... c'est le genre de phrase très qui glisse comme ça. Ouais, il y a un de ses potes qui nous a rejoint en traîneau, on était au milieu de nulle part, le mec arrive en traîneau. Non, mais comment tu te rejoins en traîneau? C'est que tu passes un coup de toki, un coup de... Est-ce que ça capte là-bas? Ça capte
pas trop, non, mais il s'était donné un point de rendez-vous avant.
Ah ok, d'accord. Après le sapin, à droite, tu sais, quand il y a l'aurore boréale, tu tournes, et là il y a la cabane, c'est celle-là. Voilà, ok.
Voilà.
Et là, il y aura un café qui t'attend.
C'est ça. Et mais ça, c'est la dernière sortie qu'on ait fait, puisqu'après, le printemps est arrivé, donc la neige a fondu. Et moi, mon rôle, c'était juste de m'occuper des chiens, donc de les nourrir, de les faire sortir tous les jours, m'assurer qu'ils aillent bien. Mais c'est à partir de ce moment-là où je commençais à avoir beaucoup de temps libre pour faire d'autres trucs perso à côté.
C'est ce que j'allais dire. Quand tu as du temps, que tu es en plein milieu de la forêt, Laponne, je pense qu'on dit comme ça, de Laponie. Je sais pas, t'étais peut-être pas encore assez haut pour être en Laponie. Bref, mais les forêts scandinaves, t'as du temps, il y a pas de bruit, t'es au chaud, t'es dans un truc cosy. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais? Tu passes tes journées sur Netflix? Tu as essayé d'aller lécher les mousses et te connecter à la nature? T'as essayé d'apprendre une langue étrangère? Qu'est-ce que t'as fait?
Oui, un petit peu de tout ça.
Tu as léché les mousses en regardant Netflix en suédois. Et du coup, ça, c'est très fort.
Donc, à ce moment-là, j'étais vers les montagnes. Du coup, j'en ai profité pour aller skier une journée, parce que je ne sais pas skier. Mais j'avais une copine sur place qui était suédoise, et du coup, on allait faire un tour ensemble en station avant que ça ferme. Il y a ça, j'avais fait un tour en kayak aussi, parce qu'on était au bord d'une rivière, en fait, qui passait devant la maison. Et pareil, j'ai peur de l'eau. Du coup... Je suis quand même allée faire un tour en kayak pour essayer de travailler ça. Et sinon, ah oui, je m'étais mis un mois sur Duolingo pour essayer d'apprendre le suédois.
Ah.
Donc j'ai fait tous les jours pendant un mois et j'ai arrêté du jour au lendemain.
Parce que
un jour, j'ai une petite fille qui est venue me parler en suédois. Et j'étais incapable de lui dire quoi que ce soit. Je comprenais rien de ce qu'elle me disait. Et au bout d'un mois de travail, ça m'a... j'étais un peu dégoûtée. Je me suis dit, en fait, ça sert à rien. Et du coup, j'ai arrêté. C'est bête, mais j'ai perdu toute ma motivation.
La petite fillette, ça s'appelle morale. Arrête. Ça se trouve, tu sais quoi ? Enfin, je demande à ses parents, ils t'ont dit, ah non, elle s'est pas encore bien parlé, ne t'inquiète pas.
Ah, mais tu j'étais toute seule avec elle, en fait. Elle comprenait pas. Et puis elle me répétait en me regardant comme si j'étais débile. Parce qu'elle comprenait pas, que je comprenais pas ce qu'elle disait. Et j'étais là, je regardais autour, je cherchais quelqu'un, il n'y avait personne, j'étais bon. Du coup, tu souris. Et puis tu passes pour un idiot.
C'est ça. voilà. Non, d'accord. Mais ça, c'était des tâches un peu ponctuelles.
Oui, sinon, je me suis engagée dans une super formation en ligne qui m'a pris plusieurs mois.
C'est quoi ?
Brandéo Impact.
Ah, celle-là, elle est bien, celle-là.
Elle est arrivée pile à ce moment-là.
C'était à ce moment-là où tu as commencé, c'est vrai ?
Exactement.
Ah, voilà. Attends, Brandéo Impact, attention, c'est une sacrée formation en personal branding. Ça, je la recommande à tout le monde, hein, si vous voulez aller faire un tour sur visioacademy.com. Voilà. Attends, je m'en fous, c'est mon podcast, hein, je peux faire mon auto-promo. je m'en fous.
Et oui, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à ce moment-là, moi, je vivais dans une cabane en bois. Donc lui, il avait sa maison et moi, j'étais dans une cabane à côté. Ouais. Et donc, j'avais l'électricité, mais il fallait que je fasse que je me chauffe au poêle à bois. Et si tu veux, la première nuit où je suis arrivée, je ne savais pas bien comment marcher le poêle à bois, donc je n'ai pas réussi à me faire du feu. Donc, je me pelais les miches et j'étais fatiguée. Et du coup, le premier soir, j'ai pleuré parce que j'étais toute seule. Je ne savais pas faire mon feu et j'en avais marre. Je me suis dit, mais je ne vais jamais tenir 2 mois. Vraiment, le premier soir, c'était
grosse. Et la cabane, est-ce que c'est la cabane, genre des vieilles cabanes, ou c'est un truc un peu suédois, genre très joli, genre la cabane?
C'est une vieille cabane, mais il y avait quand même électricité, donc c'est quand même.
Enfin, attends, entre l'électricité et une lampe au plafond et un truc un peu cosy, il y a une diff quand même. C'était sympa ou pas ?
C'était cosy, mais pas ouf. Vieillot, quoi. Tu vois, la cabane a commencé à pencher par le milieu, s'écrouler un petit peu.
Ah, d'accord, ok.
Et au début, l'eau, elle coulait pas parce que le tuyau était gelé. Du coup, je devais aller faire ma vaisselle à la cuisine des chiens, donc je me baladais avec mon seau pour faire la vaisselle. Fallait que j'aille au truc des chiens pour laver mes trucs.
Avant d'en passer sur une autre question un peu plus profonde, j'ai envie juste d'aller sur le côté technique du feu. Quand tu dis que tu ne savais pas faire ton feu, comment tu sais faire ton feu maintenant ? C'est quoi les. Genre, si n'importe quel noobs là, débutant, est là, il se dit merde, il y a un poêle, il faut faire un feu, sinon on va se cailler le cul, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment on dispose le feu ? Comment, tu vois ?
Oui, alors c'est vrai que ça peut me paraître simple au début, je me suis sentie vraiment très bête ce soir-là. Mais en fait, j'avais pas vu que si tu veux, faut faire une prise d'air par en dessous et la trappe était fermée et ça, j'avais pas vu. C'est pour ça que mon feu ne prenait pas déjà. Et après, évidemment, tu commences par des tout petits copeaux de bois, tu souffles dessus, tu sais que ça prend et après, tu rajoutes des morceaux de bois de plus en plus gros qui sont secs, évidemment. Mais l'important, c'est d'avoir la prise d'air au début pour que ça prenne bien. Et une fois que c'est chaud, après, ça carbure et c'est bon. Mais c'est vraiment, j'ai pas fait gaffe à la trappe qui était fermée. Puisque je sortais d'une saison d'hiver où j'étais dans une maison tout confort, j'avais pas à m'occuper de me chauffer, c'était chauffé automatiquement.
Bien sûr. Et ça, la petite trappe, ça change tout. C'est ce qui fait qu'il va y avoir un petit qui va attiser le feu, etc. Et après, tu peux la réduire, tu peux la refermer un petit peu pour pas que le feu se consomme trop vite. Ouais. Et tu cailles le cul à 4 heures du mat parce que hey, y a plus de bûche.
Et quand tu dois te lever le matin pour aller pisser et qu'il fait froid et que tu dois sortir du lit, parce que oui, c'était des toilettes sèches, donc il fallait que je sorte.
Ça, c'est bien.
Voilà.
Ah, mais alors, pas à l'intérieur.
Non, mais c'était le printemps, donc ça va. Mais si tu veux, quand c'est l'hiver et qu'il fait moins 30 degrés et que tu sors du lit et que tu as envie de pisser,
Tu pisses demain.
Ouais. Donc déjà, il faut t'habiller avant, en plus. Enfin, c'est tout un
magasin. Là, ça fait plus de 6 mois que tu es parti. Tu as eu plusieurs expériences cool avec des nanas, avec un gars, avec des gens tarés. Tu as eu du temps pour toi, tu as eu du temps où tu as bossé à fond. Ça t'a apporté quoi ? Qu'est-ce que, au bout de déjà ces 6 mois, enfin, tu imagines que t'es pas la même. Tu pars toute seule, la fleur au fusil, une jolie blonde comme soi, d'1m60, il y a un moment, t'as quel âge ? Rappelle-moi, t'as quel âge ?
29 ans.
29 ans, ça t'a, enfin, je veux dire, t'as dû te tester, t'as dû te découvrir, t'as dû apprendre des choses, t'as dû te comprendre, t'as dû peut-être être fier de toi, te décevoir dans certaines choses. J'en sais rien. C'est quoi ? Qu'est-ce que t'en as retiré de tout ça ?
Alors, c'était pas mon premier voyage, en sorte que je suis déjà partie plusieurs fois toute seule très longtemps dans différents pays.
Ouais.
Donc, me tester, oui, mais sur des nouvelles choses. C'était plus me tester, par exemple, à faire un métier physique,
Okay.
À m'occuper d'autant d'animaux parce que c'était un rêve, mais je ne savais pas si j'en étais capable. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est une très grosse responsabilité. Hein. Tu as quand même entre 30 et 40 toutous qui dépendent de toi. Il y a beaucoup de choses à savoir, bien s'en occuper, et j'avais jamais fait ça avant.
Ouais.
Et vu que mon rêve, projet, c'est d'avoir un ranch avec des chevaux, des chiens dans une petite dizaine d'années, en fait, là, le but, c'est que je me forme.
Génial.
Et du coup, ce que j'ai appris, c'est que j'en étais capable et que j'avais presque, enfin, pas un don, mais c'est que, en fait, je suis très bonne à ce que je fais. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir d'ailleurs le job d'été qui a suivi, dont je parlerai juste après. Après, ça m'a confortée dans le fait que j'aimais bien vivre à l'étranger, j'aime bien parler anglais, j'aime bien m'immerger dans des nouvelles choses constamment. Et notamment, la Scandinavie, c'est vraiment un monde, moi, qui me correspond. Où les gens, ils sont cool, il y a de la nature, et je sais pas, j'aime bien les pays francs.
Ah, t'arrêtes pas là, c'était le meilleur, on arrive dans le meilleur, ils sont cool, de la nature, pourquoi on devrait aller en Scandinavie alors?
Mais c'est un autre mode de vie et de pensée. Après, moi, de base, en fait, je suis assez anxieuse pour plein de raisons. Et du coup, ouais. Le fait d'être dans des environnements comme ça, ça me calme.
C'est quoi leur façon de penser? Quand tu dis une autre façon de penser, c'est quoi? Ou d'être?
Bah, ils viennent pas t'emmerder. C'est pas comme en France, déjà, où tout le monde est pessimiste. Tout le monde vient te détruire tes rêves constamment. Là, c'est que si tu veux faire un truc, bah, ils disent « Ok, bah, vas-y, fais-le ». Et puis, chacun fait sa vie, en fait. Personne vient te dire ce que tu peux faire ou pas. Et on t'encourage plus qu'on te rabaisse.
Ouais.
Enfin, du moins, c'est ce que moi, j'ai ressenti. Après, ils ne sont peut-être pas tous comme ça. Mais...
Mm-hmm.
Et il y a moins de monde aussi, parce qu'au niveau de la population, déjà, il y a moins de monde. Et en plus, dans le nord, il y a très, très peu de gens, parce que la majorité des Suédois vivent dans le sud.
Ouais.
Et j'avais été en Norvège aussi pendant 3 mois. Et c'était pareil, j'étais tombée amoureuse de la vie.
Tu m'étonnes.
Et même, les maisons sont magnifiques. Elles sont toutes en bois, enfin... Je sais pas, tu t'y prends vite goût. Et c'est dur après de revenir à la France et à autre chose, quoi.
Et c'est pour ça d'ailleurs que tu as continué sur un autre job d'été. C'est quoi ce fameux job d'été? T'es retourné sur ce. Je suis retourné sur le groupe Facebook. Mais dis-moi pas que c'est ça. T'as vraiment fait ça?
Non.
Oh putain, je suis allée à l'hôtel après un abonnement premium.
Cette fois, improbable.
Elle est devenue administratrice du groupe Facebook.
J'ai trouvé mon job grâce à Instagram. Je ne savais pas que c'était possible. C'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est hyper important. En fait, j'avais mis une story, mais vraiment, j'y croyais pas du tout. Je me suis dit, c'est vraiment histoire de dire que je cherche du boulot. Et j'ai un mec de mon réseau, qui fait aussi du chien traîneau, mais on s'est jamais rencontré en vrai, qui me dit, oh tiens, j'ai vu une annonce passer, et puis il me passe un lien. Je lis la description du job, et c'est exactement tout ce que j'avais écrit dans mon vision board du job d'été. Il y avait tout, que ce soit le salaire, les missions, le nombre d'animaux. C'était le job que j'avais écrit sur le papier, genre 3 mois avant, quoi.
Comme quoi ça sert.
C'est incroyable. Et ce job, c'était pour m'occuper des animaux de la championne du monde, qui est donc Isabelle Travadon, qui est française, mais qui a une maison en Suède avec ses chiens. Entre autres, parce qu'elle a plein d'autres animaux. Et elle a reçu plein de candidatures. Et moi, j'arrive et j'étais tellement persuadée au fond de moi que ce job était fait pour moi. C'était une évidence, quoi. C'était écrit sur le papier que c'était pour moi. Je l'ai contactée, on s'est appelé. Et puis, elle a fait son choix et puis elle m'a choisi moi. Alors que
j'ai
6 mois d'expérience.
Et boum. Et alors, comment ça s'est passé? Et boum. Mais bien sûr, on peut être fier un peu, là.
Ouais.
Merde. Il s'en passe des choses en 6 mois. Hein. C'est incroyable. Et surtout, visualiser exactement ça. Tu vois, ça, c'est un truc con, mais je le dis tellement souvent. C'était un rêve. Arrête de dire, je vais être avec des chiens en Suède. Non, c'est ça que t'as fait. Non, je vais être avec tel nombre de chiens, de telle façon, voilà, de telle, mais j'aurais tel salaire pour ça. Et puis, c'est génial ce que t'as fait. Et voilà, l'univers, il a juste mis, 3 mois, juste le bon timing dont t'avais besoin pour te l'amener. Et c'est magnifique. Quand t'es la personne la plus convaincue, c'est souvent à toi que ça arrive.
Et du coup, pardon, mais je m'étais dit, parce que le petit truc en plus, c'est que je ne voulais pas que des chiens, parce que j'aime beaucoup les
chiens.
Il y avait
des licornes aussi.
Je manquais la partie cheval. Et je m'étais dit, ce serait quand même vachement bien de m'occuper de chevaux et de chiens. Comme ça, je pourrais monter un peu à cheval en même temps et tout. Et c'est exactement ce qui est tombé, parce qu'elle a aussi deux chevaux, du coup. et des chats et des chèvres et d'autres animaux.
Donc en fait, elle a un peu la propriété que tu aimerais avoir, c'est un peu ça.
En partie, oui, parce qu'elle, du coup, elle ne fait pas de tourisme. Et elle est du coup championne du monde, donc elle fait des courses.
Bah attends, mais quand... alors, excuse-moi, là, c'est l'entrepreneur qui revient, qui vient poser cette question, mais quand, si elle ne fait pas d'excursion touristique, comment elle fait, sachant que des chiens, ça coûte, c'est un gros coût mensuel, quand tu leur donnes à manger une à deux fois par jour de la viande, 40 chiens, ça commence à faire. Comment elle faisait pour gagner de l'argent finalement? Parce que je pense pas que c'est pas le sport le plus convoité, le plus médiatisé au monde, Musher. Donc
non. Elle est éleveuse de husky depuis 35 ans.
Ah, ok.
Et coup... elle a fait aussi l'élevage de Savannah et de Leonberg. C'est une autre race de chien. Enfin, ça, c'était vraiment son travail parallèle.
Ok.
Après, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un podcast où j'ai son interview. Donc, si vous l'écoutez, ça s'appelle Les Nouvelles Aventurières. Voilà. Et il y a tout son interview dessus.
Eh ben, je mets le lien, évidemment, sera dans la description de ce podcast, comme ça.
Voilà.
Mais grosso merdo, en résumé, juste pour savoir comment, parce que ça, moi, ça m'intrigue, c'était vraiment ce côté où son élevage, l'élevage de chiens, lui permettait de financer, évidemment, bah, ses propres chiens et du coup son domaine pour pouvoir nourrir sa passion qui est le mushing, comme on dit.
Exactement.
Le mushing.
Le mushing.
Le mushing. Et toi, du coup, tu faisais quoi? Tu t'occupais des chiens pendant qu'elle était tranquille? Qu'est-ce qu'elle faisait? Bah, elle est championne du monde, merde, ça va, elle est championne du monde. Va nettoyer les crottes, là, m'emmerde pas.
Alors, du coup, là, on passe dans une autre saison, parce que c'était l'été, donc j'ai fait juin, juillet, août. Ouais. C'est vrai que chaque saison est vraiment très différente, donc c'est important de le préciser, parce qu'on ne fait pas exactement le même travail.
Là, c'est les moustiques.
Voilà, donc là, les chiens, en fait, ils sont au repos, ils ne courent pas parce qu'il fait trop chaud pour eux. Moi, du coup, en fait, moi, je travaillais du coup 7 jours sur 7. Parce qu'elle, le but, c'est qu'elle repartait en vacances l'été. Donc, j'étais toute seule à m'occuper de 40 chiens, de chevaux, des chèvres, des chats et d'autres animaux. Donc, mon rôle, c'était tous les matins, en fait, je les faisais sortir. Parce qu'ils avaient un immense parc, en fait, où ils pouvaient rester tous ensemble la journée pour se défouler et être ensemble. Ouais. Je nettoyais, comme d'hab, tous les jours, tu nettoies les crottes. Hein, ça fait partie du boulot. Et l'été, ils ne mangent qu'une fois par jour. Donc, c'est le soir. Donc évidemment mon rôle c'est aussi de les nourrir et de veiller que tout le monde aille bien parce que des fois ils peuvent être malades ou évidemment il y a les bagarres puisque le truc dont je ne vous ai pas parlé encore mais c'est qu'il y a les périodes de chaleur pour les femelles et je suis tombée en plein dedans donc c'était cet été, ça dure 3 semaines et pendant 3 semaines c'est un cauchemar en fait parce que déjà il fait jour tout le temps et les chiens ils hurlent constamment, enfin les mâles hurlent constamment parce qu'ils veulent aller voir les femelles. Donc en fait, j'ai pas dormi du tout pendant une semaine, je pense.
Les boules caisses, non, ça marche pas très bien.
Non, parce qu'en plus, je dois être à l'écoute de tout ce qui se passe. Parce que je dois intervenir H24 s'il se passe un truc. En fait, c'est comme si tu étais responsable de 40 bébés qui dépendent que de toi. C'est vraiment
mais
des
qui
bébés.
Veulent un peu faire du sexe. Donc ça, c'est un peu chiant. Ça fait deux choses qui vont pas trop bien ensemble et qui créent un concept un peu relou, en fait.
Voilà, parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils creusent des trous, ils s'échappent.
What?
Ils se passent.
Ah ouais?
Ouais, non, en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois à 5h du mat d'entendre tout le monde qui aboie comme des fous, donc forcément, tu regardes
pas. Et comment tu fais pour récupérer un chien qui s'est barré? Enfin, il s'est barré.
Bah, il se barrait, mais il restait dans le petit parc, en fait. Il se barrait de leur cage, mais c'est toujours dans le grand enclos.
Ok.
Et si tu veux, ils étaient collés à l'enclos des femelles, donc c'était
pas possible de
les rattraper. Mais ils sont vraiment insupportables pendant ces 3 semaines-là. Et ça, j'avais jamais eu à gérer ça toute seule. Et ça a vraiment été difficile.
Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que on est d'accord, du coup, qu'il n'y a aucun de ces chiens-là qui sont castrés ou une partie quand même.
Quelques-uns.
Quelques-uns, ok.
Quelques-uns, mais
et les femelles, pareil.
Seulement ceux qui vivent très très mal ces périodes, c'est-à-dire qu'ils mangent plus du tout. Et c'est très problématique si ça tombe pendant les entraînements, parce que les chaleurs, c'est 2 fois par an. Et quand c'est pendant l'hiver, pendant les entraînements, faut que le chien il mange parce que sinon il perd en performance et ça peut devenir dangereux pour sa santé. Donc ceux que vraiment qui mangeaient plus du tout, ils ont été opérés pour qu'ils se comportent normalement.
Ok. Ouais, parce qu'en même temps, si elle a un élevage, si des chiens qui peuvent pas se reproduire, l'élevage va pas faire long feu, je crois.
Voilà. Et puis sinon la journée, on joue à la balle. Je leur faisais beaucoup de câlins. Ça c'était vraiment la bonne partie parce que. On a tous un truc qu'on peut donner à haute dose, tu disais c'est l'énergie. Ça peut paraître cucu, mais j'ai beaucoup d'amour à donner. Et du coup, d'avoir 40 chiens tous les jours, en fait, ça me nourrissait parce que je pouvais donner tout ce que j'avais à donner. Et ils en avaient besoin et ils le reçoivent et ils le rendent. Et du coup, j'ai créé une relation hyper fusionnelle avec chacun d'entre eux. Et au début, tu te dis, ouais, 40 chiens, c'est un peu tous les mêmes et tout. Mais en fait, quand tu apprends à les connaître, ils sont tous différents. Ils ont tous leur personnalité, leur caractère. Et en fait, tu noues un lien qui est juste incroyable avec eux. Et à la fin, ça, c'était mes bébés, quoi. Je les connaissais par cœur et ils me connaissaient très bien aussi. Et là, c'est que génial. Du bonheur, quoi.
Et attends, mais si j'ai bien compris, tu étais vraiment toute seule sur la propriété à tout gérer.
Ouais.
Ah ouais, grosse responsabilité quand même, petite pression quand même, non?
Et ça, ouais, et c'était une étape hyper importante pour mon projet de ranch parce que je savais pas si j'étais capable de m'occuper d'autant d'animaux toute seule. Et bien sûr, pour mon projet, je serais pas toute seule, mais c'est déjà une première étape. Après, les chevaux, c'était pas beaucoup de travail, ils étaient que deux, ils étaient assez indépendants, quoi. Je devais juste vérifier deux, trois trucs. Mais t'as quand même la responsabilité dans ta tête que t'es responsable de tout ce qui se passe, en fait. C'est toi qui gères tous les animaux et qui dépendent de toi. Et c'est pas mal de pression parfois, quand même.
Si justement de ces 10 mois de mushing, de bénévolat, de vadrouille en Suède, si tu devais écrire un petit manuel, tu sais, un petit manuel de survie psychologique, mais aussi pratico-pratique pour toi-même, c'est quoi en gros les grandes leçons que tu pourrais transmettre et où tu te transmettrais je sais pas, je te dis une bêtise, mais si tu travailles beaucoup, prendre du temps tous les jours pour ne rien faire. Ou je sais pas, si t'es au milieu de nulle part, essaie d'appeler au moins une fois par semaine les copains parce que sinon ça devient lourd. J'en sais rien. Des choses comme ça qui t'ont aidé en fait, que t'as tiré comme leçon, qui te permettent d'être mieux dans ta peau, d'être plus aligné, d'être entre guillemets efficace dans ce que tu fais. Tu mettrais quoi dans ce petit manuel?
C'est vrai que garder du temps pour soi, c'est hyper important. Avancer sur des projets qui sont autres que ce que tu fais tous les jours.
Donc,
typiquement, ouais, les formations en ligne, c'est cool parce que du coup, tu baignes dans un autre monde, tu parles à d'autres gens et du coup, ça te donne un meilleur équilibre. Parce que... Après, il y a des gens qui font ça très bien, mais moi, faire le même truc tout le temps, c'est juste pas possible. Donc, c'est bien de pouvoir changer d'univers assez régulièrement et de parler à des gens. C'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de téléphoner. En fait, ma famille, je les ai pas eu au téléphone quasiment du tout, mais parce qu'on est... C'est comme ça, c'est ma famille. Et après, j'ai plus échangé avec des amis que je m'étais fait en cours de route. Mais ça n'a pas toujours été facile. Après, ce que je faisais des fois, c'est que je mettais la musique à fond. Et c'est des trucs bêtes, mais genre tu danses, tu chantes, enfin tu te défoules. Ouais. Tu te mets dans ta bulle de folie parce que du coup, j'avais pas de vie sociale en fait. Je me créais un peu ma bulle des fois de... Voilà, tu te prends une bière, tu écoutes de la musique, tu regardes des films... Enfin, voilà, des films drôles ou quoi.
Tu prends du temps. En fait, c'est super important parce que c'est ça la question. Comment tu fais en fait pour... Parce que là, il y a le côté couche et des câlins, des chiens, etc. Les chiens, c'est sympa. Je pense que tu dois vivre des moments incroyables, mais on reste des êtres humains qui ont quand même... On est des animaux aussi sociaux. Et en fonction de la personnalité que l'on a, on va avoir un plus ou moins besoin de ça, en fait, ces échanges-là. Comment tu fais pour pas devenir dingue? Comment tu fais pour profiter du moment tout en... Enfin, justement, c'est ça. Comment tu fais pour pas voir que le côté négatif parce que tu es toute seule? Ça a été quoi tes tricks, à part appeler deux, trois copains et mettre la musique à fond? Il y avait d'autres choses comme ça qui t'ont permis d'en profiter? Ou est-ce qu'au contraire, finalement, ça a été dur en vrai? En vrai, c'était dur et c'était horrible.
Alors, l'hiver, ça a été... Parce que du coup, j'étais avec mes collègues. J'étais pas toute seule. Ça s'est un peu gâté à ce niveau-là, on va dire, à partir du printemps et tout l'été. Parce que là, j'étais vraiment seule. Alors, les chiens, ça m'occupait en gros la moitié de la journée. Donc, souvent, c'était toute la matinée et 2 heures le soir. Mais en gros, j'avais tous mes après-midi de libre.
Ah ouais.
C'est pour ça que je me suis mis à fond dans les formations en ligne.
Ouais.
Donc, ça m'a bien occupée. Et après, de temps en temps, c'est faire des randos, bosser sur mes projets. En fait, j'ai vraiment pris ce temps-là pour bosser sur mes projets perso et pro. Après, c'était pas tous les jours facile. Je sais que le mois de juillet, par exemple, tout le mois de juillet, j'étais vraiment complètement toute seule pendant un mois. Et à la fin, je commençais à déprimer un peu. Mais après, j'ai une copine, du coup, qui est venue me voir pendant une dizaine de jours.
Ouais.
Et là, du coup, ça fait vraiment du bien parce que j'ai pu partager, en fait. En fait, il y a aussi le fait de vivre des trucs de dingue et que tu as envie de le partager avec quelqu'un, mais du coup, tu es tout seul. Du coup, le fait d'avoir une copine qui est venue, j'ai pu lui montrer un peu mon monde et ça m'a fait vachement de bien. Et j'ai gagné en confiance aussi parce que moi, je me mets vachement de pression. Et au quotidien avec les animaux, je me dis, s'il se passe un truc, c'est de ma faute. Et d'avoir quelqu'un avec moi, ça m'a permis de me rendre compte que, en fait, je gérais carrément la situation. Et c'est bien d'avoir un regard extérieur aussi. Et ça fait du bien. Et après, les autres tricks, c'est de temps en temps sortir. C'est prendre la voiture et aller ailleurs. Parce que du coup, j'avais une voiture sur place l'été.
Ouais.
Et c'est aller dans un autre endroit, ça fait vachement de bien au mental. Parce qu'être toujours au même endroit aussi, ça joue beaucoup. Tu te sens un peu enfermé au bout d'un moment, même si l'endroit est magique. Tu as besoin de voir autre chose de temps en temps.
Bien sûr.
Ça joue aussi.
C'est super intéressant aussi ce que tu dis, justement. En fait, ce que j'aime, c'est que souvent, on part en voyage parce qu'on veut se retrouver un peu seul avec soi-même d'une certaine façon, tu vois, pour voir ce qu'on vaut, pour vraiment découvrir qui on est, pour couper un petit peu aussi l'image que les autres nous renvoient, qui nous connaissent depuis des années, alors que des fois, nous, on essaie d'évoluer et eux, ils gardent la même image de toi parce qu'ils t'ont connu à un certain moment et tu pars un peu pour ça. Et ce qui est beau, c'est que tu dis qu'en fait, tu pars te découvrir et être seul, mais qu'en vrai, le kiff, c'est d'arriver à le partager, en fait. C'est un peu ça.
Exactement. Mais c'est pour ça aussi que j'ai le projet du ranch, c'est pour permettre à des gens d'accéder à ça. Parce que c'est pas juste dans le tourisme. Enfin, j'aime beaucoup la bosser dans le tourisme, justement, parce qu'on partage des trucs avec les gens qui viennent pour ça. Mais à terme, du coup, j'aimerais bien faire des projets avec les scolaires ou les centres sociaux, mais d'avoir, en fait, de rendre accessible ce monde un peu élitiste et utopique presque à des gens qui pourraient jamais faire ça. Je pense notamment aux gens des banlieues parce que je suis assez liée, vu que j'ai aussi grandi en banlieue.
Ouais.
Je voudrais développer des trucs là-dessus. Mais
super.
C'est le plaisir, en fait, de rendre accessible, de partager des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et surtout, ce monde-là, c'est vraiment magique. Enfin, avec les animaux, je sais pas, tout est plus intense.
Oui, d'accord. Ça triche pas.
Oui.
C'est pas exactement. C'est intense, c'est nature, c'est fou. Ça te touche, tout ce qui est... Mais même un décor va te toucher. Il n'y a pas besoin. Alors, effectivement, les animaux, ça nous touche encore plus que c'est un être vivant. Mais un décor peut te toucher au plus profond de toi aussi. Enfin, moi, c'est le cas. Mais il faut, je trouve que c'est ça qui est important, c'est de se dire, pars te découvrir. N'aie pas peur de découvrir qui tu es vraiment, pas dans les yeux des autres, mais dans tes propres yeux, en fait. Qui t'as envie d'être? Et une fois que t'as compris ce que t'aimais et dans quoi t'étais bon ou bonne, partage-le, en fait. Partage-le. Enfin, tu vois, c'est ce que t'as fait. C'est parti découvrir, t'as acquis des compétences et aujourd'hui, tu veux transmettre ça. Transmettre ce qui t'a fait du bien, transmettre ce qui t'a tiré vers le haut. Et ça, oui. C'est vraiment chambé. Emeline, j'aime bien terminer ce podcast par, si tu as déjà écouté un peu ce podcast, par deux questions traditionnelles. La première, c'est si je te file les clés de la DeLorean pour revivre un moment de ces 10 mois de mushing à travers la Suède, ce serait quel moment? Et un que tu nous as pas raconté, évidemment.
Un. Ok. Parce qu'il y a un jour, j'aimerais bien revivre ce jour où je suis tombée de traîneau. Quand même, ça peut paraître bizarre. Mais c'était
Attends, mais pourquoi tu voudrais revivre ça? C'est parce que tu t'es dit, putain, j'ai grave assuré en vrai. Je suis une badass. J'ai remis le traîneau, bam, bam, je me suis remis en selle, non?
Non, c'est que c'est la sortie de traîneau où j'ai le plus de sensations. Vraiment de l'adrénaline. Et j'ai traversé des paysages juste de dingue. On était dans les montagnes avec vue sur des lacs. Tout était enneigé. Et c'était complètement magique. J'avais jamais fait ça. En fait, c'était la première vraie sortie. Enfin, j'avais déjà fait du traîneau, mais c'était avec des touristes. Donc, c'était des petits circuits tracés. Et là, c'était vraiment du hors-piste où je me suis vraiment dépassée. Et je sens que j'ai progressé dans la conduite de traîneau, parce que c'est un sport quand même. Et même si je suis tombée, bah, du coup, j'ai appris plein de trucs. Et je sais pas, j'ai adoré ce jour-là, même si je me suis fait peur, parce que j'ai eu beaucoup de sensations. Donc, il y avait ce jour-là.
Je pense que tu as bien résumé en vrai la vie. J'ai préféré ce jour-là et même si je suis tombé, j'ai beaucoup appris, j'ai eu plein de sensations et du coup, je me suis senti grandir et avancer. Je pense que c'est un peu... Enfin, tu mets n'importe quelle autre expérience de la vie, en vrai, c'est ça les meilleures expériences. C'est celle où tu te pètes la gueule, mais tu dis, en vrai, Je me suis fait un peu mal, mais j'ai fait mieux que d'habitude. J'ai compris, j'ai grandi, je me suis senti vraiment en vie.
C'est ça.
Et est-ce que tu en as une autre ? Un autre moment ?
Ouais, bah, bon, y en a eu tellement, en fait.
Tu sais où j'ai fait pipi par moins 30 et que mon pipi, il a gelé tellement c'était...
j'ai pensé à ça. Mais en général, quand il fait trop froid, tu prends tes dispositions avant de sortir. Parce qu'en plus, tu as trois couches de vêtements. Hein. Non, peut-être la soirée aussi avec mes collègues, avec le Tipeee, les aurores boréales. Ça, c'était juste magique aussi. Après, c'est des petits moments. Enfin, ça peut paraître bête, mais les moments...
Non, mais attends, parce que la DeLorean, il n'y a pas non plus plein d'essence. Hein. C'est-à-dire, tu fais un voyage, calme-toi aussi.
Mais en plus, ce qui est difficile, c'est que j'ai été dans plusieurs chenilles et c'est des chiens que
et
j'ai...
Eh bah, c'est ça le problème. C'est, il faut choisir.
Non, ça, c'est le plus gros problème.
Il y a bien un moment, tu sais, où tu as eu ce sentiment où tu dis, ouais, je me sens éternel, je me sens là exactement dans le moment présent où, je sais pas, t'es... Il y avait une odeur particulière, il y avait quelque chose que tu voyais, quelque chose que tu as ressenti, non ?
Je l'ai ressenti plusieurs fois, en hiver et en été, parce que c'est vraiment deux univers différents. Mais en été, il y a un endroit qui m'a vraiment marqué, et pour le coup, j'étais toute seule, mais c'était en haut d'une grande colline, et j'avais vu sur des montagnes au loin, avec des lacs un peu partout, et des forêts. Et c'est une vue, je me suis dit, mais ça, je veux voir ça de ma maison plus tard. Quoi. Enfin, c'était un endroit magique, enfin, c'était beau et à perte de vue. Et je me suis sentie, vraiment cet endroit, je me suis imprégnée de ça en me disant, je vais le mettre dans mon vision board parce que...
Eh ben, 3 mois plus tard, t'as la baraque, tranquille.
Voilà, et... Puis, enfin, c'est difficile de choisir parce que, enfin, quand tu restes aussi longtemps quelque part et que tu vis autant d'expériences à travers différentes saisons, tu vis plusieurs vies en une, en fait. C'est tout l'ensemble. Ouais, enfin.
Clairement.
J'ai toujours du mal à choisir.
Je t'en prie. Et si tu devais résumer justement, dernière question, c'est 10 mois en une citation. Une phrase de ta création, une punchline, ce serait laquelle ?
Écoute-toi.
Tout simplement. Ça me va très, très bien. Ça me va très, très bien, Emeline. Je te remercie beaucoup pour ce partage. Merci d'avoir voulu partager cette belle aventure. Cette aventure où tu prouves que bah, même si on est une petite blonde d'1m60 et 50 kilos, si on a des rêves, on se le met dans une liste. Et puis des fois, on pioche dedans, on se dit « Bon, alors… » Aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être ? Et on y va, et on se donne les moyens, et en fait, on part dans une aventure incroyable qui t'a complètement changé, qui a forgé tes rêves, et en plus que t'es en train de réaliser. Donc pour ça, je te dis un grand bravo. Tu peux être vraiment fier de toi. Surtout, lâche rien. Pour suivre Emeline, comme d'habitude, j'ai mis les liens dans la description du podcast. Mais ton blaze, c'est Adventures Way. Tu peux être Adventures Way sur Instagram. Mais encore une fois, j'ai mis le lien dans la description pour ceux qui veulent la suivre et suivre ses futures et anciennes aventures. Je te fais des gros bisous, je te dis merci et je te dis à bientôt.
Merci à toi, Alex.
Ciao.
Bisous.